Bonjour, bienvenue sur le site superparents.com pour un article qui va concerner les conflits et l'autonomie de nos chères petites têtes blondes. Alors, je m'appelle Caroline Domanine, je suis trader et coach de trader. Mais alors, vous pouvez vous demander, qu'est-ce qu'un trader et un coach de trader peut bien faire sur le site superparents? Alors, rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous parler de trading. C'est que je suis aussi une maman passionnée par la psychologie en général et plus particulièrement par les phénomènes psychologiques qui régulent nos relations aux autres. Et alors, riche de cette passion, j'ai créé le blog tyrans-et-victimes.fr qui explore les rapports de force entre les individus et donc, évidemment, avec nos enfants aussi. J'ai deux enfants de 8 et 4 ans et j'accorde évidemment beaucoup d'attention à développer une relation saine pour les aider à devenir ce qu'ils sont censés être, même si c'est pas tous les jours facile. Dans mes recherches, je me suis particulièrement attardée sur les sources de conflits entre parents et enfants. Parce que évidemment, chez nous aussi, il y a des conflits, et d'ailleurs, j'ai envie de dire heureusement. Je vais pas aller jusqu'à penser que tous les conflits sont positifs, loin de là. Souvent, ils font pas vraiment avancer les choses et ils installent une atmosphère lourde à la maison. Colère, incompréhension, sentiment d'injustice ou découragement, la plupart des conflits dévorent notre énergie vitale et notre joie. Mais au milieu de tout ça, certains de ces conflits sont structurants pour l'enfant et permettent aux parents de s'adapter, de se calibrer par rapport aux besoins de leur chère petite tête blonde. Alors, un conflit, c'est aussi une révolte, une manière d'exprimer le désaccord avec de la force et aussi de la détermination. Le conflit, c'est aussi un moyen pour l'enfant d'exister pleinement et de donner une voix à ses besoins et de se positionner comme un être décisionnel à part entière. Quel est notre rôle, si ce n'est préparer ces individus que nous aimons plus que tout à devenir des adultes autonomes, responsable et épanoui. Dans notre imaginaire, on a tendance à penser que tel âge donne droit à telle liberté. Et dans l'absolu, c'est pas faux, sauf que dans la pratique, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, pour deux raisons. La première, c'est que chaque enfant a ses propres besoins et sa propre maturité. Et ensuite, l'acquisition d'une liberté doit être progressive et graduelle, demandant une réelle cohérence des parents dans toutes les sphères de la relation à l'enfant. Et ça, évidemment, c'est parfois un petit peu compliqué. Bref, la conquête de l'autonomie ne se fait pas sans heurts et parfois même avec des cris. Alors comment identifier un conflit d'autorité larvé, une impasse dans laquelle vous seul, en tant que parent, avait le pouvoir de sortir. Le premier symptôme, entre guillemets, c'est un refus compulsif d'obéir. Le deuxième, c'est le même sujet qui revient en boucle, un petit peu le phénomène du disque rayé, vous voyez, sans réellement trouver de solution satisfaisante. Et enfin, le troisième symptôme, c'est quand le ton monte, sans raison apparente, que l'enfant est soit cassant, soit qu'il refuse la proximité, ou le dialogue, ou qu'il s'énerve très rapidement. Parce que l'enfant a besoin de décider. Et oui, mais pas tout, et pas n'importe quand. Alors que peut-il décider et quand? Les différentes libertés de nos enfants doivent être conquises progressivement, et nous ne parvenons pas toujours à bien calibrer les choses. Entre les libertés légitimes, dont l'enfant a besoin pour avancer, les libertés prématurées qui viendraient mettre à mal son intégrité physique ou morale. Et face à tout ça, notre propre affectivité, ce que nous sommes prêts à lâcher en termes de liberté et même, j'ai envie de dire, de pouvoir. Il y a donc cette espèce de triptyque qui est assez compliqué à gérer et dans l'action, c'est pas toujours évident de choisir si les velléités de nos enfants sont légitimes ou si la barrière, qui était jusque-là acceptée, doit être maintenue contre vents et marées. Avant toute chose, le besoin de contrôle des parents. L'enfant a besoin d'augmenter sa liberté en grandissant, mais les parents ne sont pas forcément prêts à leur donner, et ça pour beaucoup de raisons. La première, c'est la peur. Si nous sommes fiers de voir nos enfants acquérir de nouvelles compétences, il n'empêche que ça génère parfois de la peur. Être parent signifie souvent avoir peur, ce qui est normal et légitime. Nous les aimons, nous sommes responsables d'eux et on veut les protéger. Or, offrir de l'autonomie signifie aussi accepter qu'ils rencontrent des difficultés, des peines, voire même des dangers. Parvenir à juger avec justesse d'un besoin d'autonomie face à un danger, souvent fantasmé d'ailleurs, c'est compliqué. Il faudrait pour cela que nous parvenions à nous détacher de l'émotionnel pour observer de manière neutre et pragmatique l'ensemble des éléments, qui sont les suivants: le degré de maturité de l'enfant, l'autonomie qu'il revendique et l'environnement. Pour tirer une conclusion, on dirait en substance « demande validée », « demande refusée » ou « demande ajustée et négociée ». Prenons un exemple. Je pense à Mathieu, qui veut aller tout seul à l'école le matin. Il a 9 ans, il habite à 500 mètres de l'école et voit tous les matins son copain passer devant sa fenêtre pour aller tout seul à l'école. Mais sa maman n'est pas prête. Oh que non! Il y a la route à traverser. Mais je regarde toujours avant de traverser. Ouais, mais il y a les grands qui pourraient te faire du mal. Mais maman, je serai pas tout seul, on sera ensemble avec Noé. Et puis avec tout ce qui se passe, non, 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 c'est non. Mais Mathieu a besoin de cette autonomie. Et ce refus rejaillit sur toutes les sphères de sa vie et dans sa relation à sa mère qui finit par accepter, épuisée par des mois de conflits. Pour se rassurer, au début, elle le suit de loin en catimini, un petit peu comme un agent secret avec ses lunettes noires, pour être sûre que tout va bien, et elle comprend assez vite qu'en effet, son enfant est prêt, et depuis longtemps, et que c'était elle qui ne l'était pas. Deuxième raison du besoin de contrôle des parents, ce sont les attentes décalées. Parfois, on aimerait que nos enfants nous suivent dans nos propres désirs, alors qu'il n'est pas forcément prêt pour cela, ou qu'il est déjà trop grand, ou que ça ne l'intéresse pas, tout simplement. Je pense à l'exemple de Marion, une petite fille de 8 ans, dont les parents, férus d'escalade, tentent de transmettre leur passion. Mais Marion n'aime pas l'escalade. Alors fatiguée de cette voix qui n'est pas la sienne, Marion s'insurge, s'oppose et fait vivre l'enfer à ses parents. Elle boude, elle n'est jamais d'accord, elle refuse de parler jusqu'au jour où la vérité éclate.
« En plus, l'escalade, c'est nul !»«
Mais t'as toujours adoré ça depuis que t'es toute petite !»«
Non, c'est vous qui aimez ça! Moi, j'aime pas et je veux plus en faire !»
La vérité enfin dite, les parents agissent en conséquence et les relations peuvent s'apaiser. Autre cause du besoin de contrôle des parents, l'envie que l'enfant reste petit. Accepter que nos enfants grandissent signifie aussi accepter de vieillir. C'est prendre la mesure du temps qui passe, ce qui reste évidemment moyennement agréable, j'en conviens. Ils sont un peu comme une fusée lancée à grande vitesse et il faut suivre. Hier encore, on était sur les bancs de la fac et on passait des soirées de fous avec nos potes et aujourd'hui, nos enfants grandissent et nous renvoient l'image d'un passé qui est définitivement défunt et de notre jeunesse qui peu à peu s'en va. Chercher à garder notre enfant petit signifie donc, par effet miroir, nous garder jeunes et arrêter le temps qui passe. Et évidemment, cela est une illusion. Autre raison de conflit due au besoin de contrôle des parents, c'est les conflits de valeurs. En tant que parents, on a nos propres idées sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Nous avons nos valeurs, elles font partie de nous et nous entendons bien les transmettre à nos enfants comme un héritage, au même titre que notre ADN ou la maison de Pépé. Et ceci est normal. Par contre, notre enfant ne partage pas forcément l'ensemble de nos valeurs. Il a sa propre personnalité, sa propre histoire, et le monde en plus n'est plus du tout le même que lorsque nous avions leur âge. Il peut donc y avoir des conflits de valeurs. Pour Olivier, il faut avant tout se surpasser parce qu'il est très combatif. Sportif, carrière fulgurante, Olivier est un battant. et il compte bien transmettre ça à ses enfants. Ses deux aînés marchent dans ses pas avec un certain plaisir, mais Chloé, 12 ans, rêveuse et tranquille, n'adhère absolument pas. Elle est discrète, elle est sur la réserve, c'est une observatrice plutôt en retrait. Et ça clash entre le père et la fille, car l'un compte bien donner un petit peu de gnac, et l'autre a l'intention de continuer à vivre ainsi. La situation évidemment est délicate et le père et la fille sont dans une impasse relationnelle. Alors concrètement, quelles sont nos options face aux besoins d'autonomie de nos enfants ? Quand on regarde ces situations de manière globale, on se dit qu'en fait, il n'y a pas 50 alternatives, il y en a 3. La liberté est refusée, la liberté est octroyée, la liberté est négociée. Donc une liberté refusée. C'est pas parce qu'un enfant demande une liberté qu'il doit forcément l'obtenir. Gardons à l'esprit que tout n'est pas négociable et que nous n'avons pas à nous justifier sur tout. Certaines libertés ou envies ne sont pas acceptables. Et si le dialogue est généralement privilégié dans la famille, parfois, une fin de non-recevoir ferme et sans justification permet aussi à l'enfant de garder son statut d'enfant sans avoir à gérer une responsabilité qui n'est pas la sienne. Toutefois, s'il revendique une liberté ou plus d'autonomie, il exprime un besoin réel. Balayer ce besoin d'un revers de main, avec un refus ferme, sans explication et sans possibilité de combler le besoin autrement, dégrade la relation entre les parents et l'enfant. Clara a 4 ans et elle veut aller dormir chez sa copine de classe. Aucun des parents impliqués dans l'affaire n'est prêt pour ça, ni les parents de Clara, ni ceux de la copine. La maman lui dit « Mon ange, tu es trop petite pour aller dormir chez ta copine. » Clara pleure, fait un caprice. Ici, la négociation ou la justification est inutile. Je t'ai déjà dit que tu es trop petite. Si tu veux pleurer, c'est ton droit, mais je ne changerai pas d'avis. Mais qu'en est-il du besoin de la petite fille de partager un moment privilégié en dehors de l'école avec sa copine ? On peut par exemple proposer à Clara d'inviter sa copine pour goûter ou d'aller jouer avec elle au parc. Mais pas si elle continue à pleurer comme ça, évidemment. C'est à Clara d'apprendre à gérer la frustration de ce refus et la perspective de jouer avec sa copine, la perspective de combler son besoin, peut évidemment l'y aider. Ici, on ne parle pas de chantage, hein. On doit expliquer à l'enfant qu'en ayant une attitude plus responsable, il obtiendra plus de droits, ce qui est logique et normal. Je n'invite pas ta copine dans ces conditions, fin de la discussion. Ensuite, la liberté est octroyée. Afin de juger si une liberté est bonne à donner, vous pouvez valider la cohérence globale de la demande, la maturité de l'enfant et l'environnement. Comme expliqué un petit peu plus haut, tentez de faire abstraction de vos propres filtres pour être pragmatique. Nos besoins en tant que personne ou en tant que parents ne sont pas leurs problèmes. Un point toutefois non négociable, évidemment, la sécurité. Notre enfant sera-t-il en sécurité si on lui donne cette autonomie ? Et enfin, la liberté est négociée. Parfois, nous ne pouvons pas vraiment refuser ni totalement adhérer à la demande. Les parents peuvent donc chercher un consensus pour combler le besoin sans céder à une attitude qui ne nous paraît pas acceptable. Paul a 3 ans, il est en petite section de maternelle et aujourd'hui il a décidé qu'il irait à l'école avec son costume de Spider-Man. Maman lui dit que ce n'est pas possible, qu'on ne se déguise pas pour aller à l'école. Paul crie, pleure, il veut Spider-Man. Ses parents peuvent tenir bon sur ce point, qui n'est pas négociable, mais aussi noyer le poisson, entre guillemets, en proposant à Paul de choisir lui-même une tenue correcte pour aller à l'école et la possibilité de s'habiller en Spider-Man pour aller jouer avec le petit voisin après l'école. Le besoin de Paul de choisir sa tenue est respecté. le besoin de se déguiser est respecté aussi, bien qu'il soit un petit peu décalé dans le temps, et la bienséance est préservée, tout va bien. Ici, Paul revendique son besoin de faire des choix sur son image. Le fait que ses parents refusent qu'il se déguise ne signifie pas qu'ils refusent qu'il choisisse sa tenue. Lorsque nos enfants donc formulent une demande farfelue, inacceptable, nous pouvons en tant que parents chercher le principe actif de la demande d'autonomie et proposer une alternative. Dernier point, pousser l'enfant vers l'autonomie. Pour limiter globalement les conflits d'autorité avec nos enfants, et pour les responsabiliser dans la vie, nous pouvons leur proposer de faire des choix à leur mesure. Cela commence par des choses très anodines lorsqu'ils sont petits. Tu veux le t-shirt rouge ou le t-shirt bleu ? Et le degré d'importance augmente avec la maturité de l'enfant. Attention toutefois à ne pas donner une liberté que l'enfant ne serait pas capable de gérer. Il a besoin de se sentir entouré. Et une marge de liberté trop forte pourrait engendrer soit de l'angoisse, soit une prise de pouvoir sur notre statut de parent. La marge de choix doit être cohérente avec la maturité. Pour les enfants, mais c'est comme pour nous, des droits impliquent des devoirs. Donner une grande variété de droits alors que l'enfant n'est pas à même d'en assumer les devoirs est donc un bon indicateur de fausse route de notre part. En plus, les enfants ne sont pas toujours fidèles dans leurs choix et ils changent régulièrement d'avis. Apprendre à l'enfant à assumer son choix, tu as choisi de mettre ce t-shirt, donc on ne va pas en changer sans raison, c'est une attitude qui est assez structurante pour lui et lui montre que son choix a de l'importance pour nous. Ça favorise donc l'estime de soi et cela renforce les capacités décisionnelles de l'enfant. De manière générale, désamorcer un conflit avec un enfant passe par le dialogue. Elle est loin à l'époque de « une tarte et au lit ». Le monde a changé, les parents et les enfants ont changé et rester bloqué sur des comportements d'antan mène à plus ou moins brève échéance dans une impasse. Tout est donc question d'équilibre et d'observation. Encourager l'autonomie, mais pas trop. Expliquer ou négocier ce qui peut l'être, mais pas tout. C'est l'attitude des enfants qui nous donne les informations nécessaires pour trancher en toute conscience et pour rester cohérent dans les messages que nous leur donnons. Un chemin de croix, je vous l'accorde, mais bon, si c'était simple d'éduquer un enfant, ça se saurait. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur tyrans-et-victimes.fr.